Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, l'émission que vous pouvez écouter en direct chaque semaine sur micro-rebelle.fr et qui est rediffusée par nos amis de Radio PFM 99.9. Nous les remercions hein, chaque vendredi à 20h, chaque samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. Alors Micro Rebelle Hebdo, c'est le magazine des luttes, des alternatives sociales, écologiques, dans le bassin minier et au-delà. Aujourd'hui, le studio est plutôt bien rempli. Je suis avec Luc à la technique.
Salut à toutes et à tous.
Aurélie, bonsoir, bonjour.
Bonsoir.
Jonathan qui est à l'heure cette fois-ci.
Ouais, bonsoir.
Et Olivier également.
Bonsoir.
Donc on va tous et toutes vous présenter notre chronique comme chaque semaine. Et notre invité ce soir, c'est Penda Diouf. Bonjour Penda.
Bonjour.
On aura l'occasion de discuter avec Penda tout à l'heure en fin d'émission. Le sommaire, notre agenda social et culturel, les actualités au travers de rubriques et de revues de presse, de la musique, comme toujours sur Micro Rebelle, c'est de la musique libre. Et puis donc, en fin d'émission, un entretien avec Penda tout à l'heure. Sans attendre, place à l'agenda social et culturel. Jonathan ?
Alors, petit agenda. Du coup, commençons par le mardi 25 février. Entrée dans la monnaie libre, organisée par le mouvement français pour un revenu de base. La monnaie libre GUN est une alternative monétaire égalitaire où chacun, chacune reçoit chaque jour son dividende universel juste parce qu'il existe. Venez découvrir le réseau et vous inscrire. Repas partagé à 19h, puis une présentation et des inscriptions à partir de 19h30 jusqu'à 21h30 à la Corotine, 16 allée de la Filature, le mardi 25 février à 19h.
Donc c'est à Lille, hein, la Corotine. Hein.
Merci, je ne savais pas. Ensuite, toute la semaine au cinéma Les Étoiles de Bruit la Bruxière, il y aura une rétrospective de Charlie Chaplin. Il y aura 3 films. Le premier film, c'est Monsieur Verdoux. Le samedi 22 à 18h30, le dimanche 23 à 20h30, le lundi 24 à 18h30 et le mardi 25 à 16h30. Ensuite, il y aura le film Un roi à New York. Mercredi 26 à 18h30, vendredi 28 à 16h30, le samedi 29 à 18h30 et le dimanche 1er mars à 20h30. Et enfin, le dernier film, Parasite, en version noir et blanc, en sortie nationale, le samedi 22 à 20h30, le dimanche 23 à 18h15, le lundi 24 à 16h15 et le mardi 25 à 20h30.
Une annonce dans notre agenda social, une annonce qui nous tient à cœur. Vous savez qu'il y a 15 jours, on a organisé une initiative publique, une radiodiffusion publique avec Hugo Paglietta autour de son livre « La possibilité du fascisme ». Eh bien, la semaine prochaine, samedi 29 février, c'est le seul meeting national de Marine Le Pen à Lens. Hein, donc, Lens accueille le seul meeting national de Marine Le Pen. Et donc, il y a une contre-manifestation. Contre-manifestation, donc, le souhait, c'est qu'on soit très, très nombreux. Le rassemblement, c'est au 55 rue d'Arras. Hein, c'est sur la... entre le rond-point d'Elleu et Arras, hein, juste sur le parking du supermarché Action. L'idée, c'est de se faire entendre, hein, nous élever contre la venue du FN, du RN à Lens. Ce parti est tout sauf républicain, il prône la haine. Tous ensemble, organisons-nous. Donc rendez-vous samedi 29 à 14h30 sur le parking d'Action à Lens.
Et pour clôturer cet agenda, il y aura Bobine Rebelle. Donc du coup, Bobine Rebelle va commencer le vendredi 3 avril avec son premier film à 20h30, À l'air libre, par Nicolas Ferrand et Samuel Gauthier. Je vais lire son synopsis. Nichée au fond d'une vallée picarde, une ferme accueille des détenus en fin de peine sous le régime du placement extérieur. Une structure d'insertion unique en France qui leur propose un logement, un travail, un accompagnement social et une vie communautaire riche et exigeante. Entourés de salariés et bénévoles, ces hommes tentent de se reconstruire à l'air libre est assurément un film sur la sortie de prison. Mais c'est aussi et peut-être surtout un film sur la prison. Une prison qu'on ne voit pas, mais qui est omniprésente. Une prison dont on ne cesse de mesurer les traces et dont il paraît si difficile de se libérer. Ensuite, les films vont reprendre le samedi 4 avril avec Vacancy à 10h30. Là aussi, je vais lire son synopsis. Ultime refuge pour les oubliés de l'American Dream. Le mortel aux États-Unis abrite toute une population de laissés pour compte, d'humains à la dérive, qui, de crise en crise économique et personnelle, se sont vus déposséder de tout. Il y a ceux qui ont tout perdu, il y a ceux qui ont tout quitté, ceux qui ont tout oublié, ceux qui rêvent encore. Aspirés par la survie quotidienne, chacun tente de se refaire dans ce nid précaire à la marge du monde. Il y aura une pause de restauration sur place et le prochain film va reprendre à 14h avec comme titre « Étudiants, tous à l'usine ». Alors que mai 68 se termine, il est un petit groupe d'étudiants pour qui la lutte ne s'achève pas là. Tandis que les autres reprennent le chemin des amphis, les établis rejoignent, grands idéaux en tête et petits livres rouges en poche, les principaux bastions ouvriers, c'est là-bas, espèrent-ils, qu'ils rallumeront la flamme de la révolution. 50 ans après, ils racontent leur engagement total, leur espoir et leur désillusion. Ensuite, après le débat de 14h, il y aura un autre film à 16h, La guerre des centimes. Ce film retrace le temps d'une livraison, la vie de deux coursiers à vélo à Paris. Tous deux étrangers, Omar et Marwen, sont venus en France pour un rêve et se retrouvent à pédaler pour leur survie. À travers ce double portrait intime, nous découvrons le quotidien de beaucoup de jeunes étudiants, mais aussi de pères de famille qui mettent ou remettent leur vie en jeu pour réussir à s'en sortir dans ce nouveau système économique. Enfin, le dernier film à 18h, Les libertés prises. Comme les autres compagnons du réseau Repas, Vincent et Elisa, la trentaine, aspirent à vivre et travailler en collectif. À travers une formation à la culture coopérative, ils vont être amenés à partager leur quotidien dans de multiples collectifs. Le débat va se clôturer à 20h30 avec un repas intitulé Bamine Rebelle. Il faut prendre en considération que les inscriptions sont obligatoires sur le site suivant http://lelag.fr. C'est tout pour moi.
Voilà, donc effectivement, hein, ce Bobine Rebelle, ça se passe au Lag, hein, le lieu autogéré du bassin minier, 23 avenue Jean Jaurès à Lens, à Liévin, pardon. Et c'est la 8e édition de Bobine Rebelle, donc un festival qui maintenant est bien inscrit dans le paysage, hein, dans le paysage militant bien sûr, mais pas seulement, dans le paysage culturel, social du bassin minier. Un peu de retour maintenant sur l'actualité sociale, politique, écologique. Donc on va vous présenter ce petit tour d'horizon à plusieurs voix. Je vais commencer par l'actualité générale en France. Donc bien sûr, il est important d'aborder cette rubrique actualité par le projet de loi sur les retraites. Au lendemain de la journée de grève et de manifestation, ce jeudi 20 février. Car s'il est vrai que l'Assemblée nationale a commencé ses travaux en vue de l'adoption de cette réforme, il n'en reste pas moins vrai que dans la rue, elle est toujours combattue. Même si les manifestations sont moins fournies et les grèves moins suivies, il est certain que toutes celles et ceux qui se sont mobilisés depuis le 5 décembre dernier refusent toujours, on pourrait même ajouter plus que jamais, cette réforme. Dans l'esprit des manifestantes et manifestants, des grévistes et au-delà de toutes celles et ceux qui leur ont apporté leur soutien à un moment ou à un autre, la lutte n'est pas terminée, quelle que soit l'issue des discussions à l'Assemblée. L'autre actualité de la semaine, c'est la baisse du chômage, claironnée sur tous les médias. En pratique, le chômage aurait baissé tout au long de l'année 2019 et au 31 décembre 2019, il n'y aurait plus que, entre guillemets bien sûr, 8,1% de la population active au chômage. Il n'y aurait donc plus que, toujours avec des guillemets, 2,4 millions de chômeuses et chômeurs. Bien entendu, ces chiffres interrogent. Il y aurait par exemple de quoi méditer concernant le mode de calcul de l'INSEE qui annonce 2,4 millions de chômeurs et le mode de calcul de Pôle emploi qui est de 3,3 millions. Notamment, l'INSEE manipule aujourd'hui le concept de « halo du chômage » qui recouvre les personnes qui ne recherchent plus de travail. On peut noter que ce halo est en augmentation. 150 000 personnes de plus, en un mois, renoncent à chercher du travail. Et puis, on peut imaginer que concernant cette baisse du chômage, l'alternance et l'apprentissage n'y sont pas pour rien. Et par ailleurs, la précarité ne recule pas. Enfin, que penser d'une soi-disant baisse du chômage alors que les licenciements se poursuivent dans les grandes entreprises et que le secteur public réduit également les emplois? Chaque semaine, des plans de licenciement sont annoncés. Tout récemment, ça a été le cas à Airbus. En région, c'est l'entreprise Cargill, le géant américain de l'agroalimentaire, qui annonce la suppression de 183 postes sur 328 à Haubourdin. Alors on va rester dans le monde de l'entreprise avec ce titre cette semaine dans La Voix du Nord. Plus d'un million à Danone pour contrer la concurrence des Pays-Bas. Alors ce titre fait évidemment penser, parmi de nombreux autres exemples partout en France, à ce qui se passe dans le bassin minier, où les communautés d'agglomération votent des crédits importants pour l'installation d'une usine de fabrication de batteries électriques à Douvrin. Mais revenons à Danone. La Voix du Nord précise, avec l'octroi d'une aide publique à l'usine Blidina Danone de Stenvoord, les élus espèrent pérenniser les 600 postes de Danone face à la concurrence d'autres sites. En fait, précise le journal un peu plus bas, c'est Danone qui est venu demander cette subvention à la communauté de communes. Et La Voix du Nord pose la question, faut-il aider les entreprises? Pour La Voix du Nord, je cite, la réponse à cette question semble évidente. On n'en saura pas plus, même si l'on devine que l'évidence, c'est d'aider les entreprises avec de l'argent public. Encore faudrait-il, nous semble-t-il, revenir à quelques fondamentaux concernant ces grandes entreprises. Typiquement, on sait bien où vont les aides publiques accordées aux entreprises. La plupart du temps, elles permettent d'augmenter la productivité tout en diminuant les effectifs. La compétitivité est le plus souvent la petite feuille de vigne qui cache les gros bénéfices des entreprises au profit des actionnaires. Heureusement, tous les élus ne marchent pas dans la combine. Dans le cas de Danone, La Voix du Nord cite Stéphane Dieuzard, maire du village d'Auxelard, 550 habitants, qui a voté contre l'octroi d'une aide à Danone, un vote contre avec une dizaine d'autres élus. Ce maire déclare à La Voix du Nord « Moi, avant d'être élu, je suis agriculteur et producteur chez Danone. Je vais voter contre, car je ne comprends pas qu'un groupe qui fait des milliards de bénéfices et 25 millions d'euros d'investissement demande une subvention à une toute petite communauté de communes. » Alors pour conclure cette chronique, pour ce qui me concerne, on va rester dans le monde de l'entreprise une fois encore. C'est une brève dans La Voix du Nord, je vous la lis. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, fondateur du géant du commerce en ligne Amazon, dénoncé pour son impact sur l'environnement, a créé le fonds Bezos pour la Terre pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Sur son compte Instagram, Jeff Bezos a annoncé qu'il dotait personnellement ce fonds de 10 milliards de dollars pour commencer. Cette somme représente 7,7% de sa fortune personnelle, estimé à 130 milliards de dollars par Forbes. Cette initiative mondiale financera des scientifiques, des militants, des ONG, soit tout effort qui offre une réelle possibilité d'aider à préserver et à protéger le monde naturel, a-t-il ajouté. Fin de citation. La Voix du Nord ne commente pas davantage. Pour notre part, nous nous contenterons d'une courte remarque sous la forme d'un questionnement. Que penser d'un système économique qui repose sur des grands patrons prédateurs qui d'une main détruisent massivement la planète et de l'autre se rachètent une conscience en mettant de l'argent sur la table pour réparer les dégâts qu'ils ont eux-mêmes commis. C'en est terminé pour ce qui me concerne. Je passe le flambeau à Aurélie.
Merci. Donc aujourd'hui, chers auditeurs et chères auditrices, j'ai décidé de vous parler de la mobilisation des enseignants dans les facultés, rejoints par le corps étudiant. Étant moi-même étudiante, j'assiste plusieurs fois par semaine à la distribution de tracts de la part des étudiants, mais aussi aux discours motivants des professeurs nous encourageant souvent à rejoindre le mouvement de grève. Il n'empêche que malgré tout, il reste une forme de flou autour de cette grève du corps étudiant et enseignant. Et un des articles de Poetis de cette semaine m'a aidé à comprendre réellement les enjeux. Parce qu'il ne s'agit pas juste de la grève contre la réforme des retraites, mais principalement de la grève contre la précarité. On a tendance à croire que nos chers professeurs sont très bien payés, surtout en travaillant à l'université. C'est vrai, tant d'années d'études pour enseigner, cela doit bien valoir un salaire décent, au moins. 9 euros de l'heure pour un amphithéâtre, nécessitant au moins 3 heures de travail préparatoire. D'un point de vue extérieur, on se dit « 9 euros, c'est pas si mal ». Mais quand on regarde plus attentivement, on se rend compte que le SMIC horaire est à 10,15 €. Alors finalement, sont-ils si bien payés que ça ? L'article met en évidence une chose importante. 85% du budget des universités passe dans la masse salariale. Eh bien, me direz-vous, ils engagent du monde dans ces universités ? Eh bien non, pas réellement, puisqu'en réalité le budget accordé aux universités en 2007 n'a pas pris en compte l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires selon leur ancienneté ou leur grade. Alors, on engage moins, et ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'on engage mieux. En effet, ce sont des contrats de courte durée, qui la plupart du temps ne sont pas des gages de qualité. Au-delà de ça, l'effectif des étudiants ne cesse d'augmenter, alors que les universités ne sont pas en mesure de pouvoir engager plus d'enseignants. Alors on sacrifie encore et encore, un amphi au lieu de deux par exemple. Et faute de moyens, ce sont les précaires, ceux qui effectuent leur thèse et qui sont payés une misère, qui sont chargés de dispenser ces cours. Et 34 ans, c'est l'âge moyen pour espérer devenir titulaire dans une faculté. Oui, espérez, chers auditeurs, car la loi relative aux libertés et responsabilités des universités promet de se corser encore plus, promettant une compétition encore plus ardue pour la titularisation. Si ce n'était que ça, les labos de recherche, eux aussi, sont en danger. Le gouvernement veut imposer une sélection parmi les travaux de recherche. Et ce n'est que le début d'une grève illimitée contre le gouvernement.
Merci Aurélie. On va continuer notre petit tour de table de l'actualité, cette fois-ci avec Olivier.
Yes. Alors je lis dans la Voix du Nord une tornade à Liévin. Alors que la tempête Denis soufflait sur la région dimanche, un phénomène violent a frappé particulièrement un quartier de Liévin. Un phénomène de type tornade a frappé la cité des Castors à Liévin, heureusement sans faire de blessés. Ce lundi matin, le réveil est difficile dans le quartier. À la lumière du jour, on constate les dégâts matériels. Une habitante nous raconte. On était dans la cuisine, on a entendu un gros souffle de vent. On a regardé par la fenêtre et on a vu une tornade. Ça tournait en envolant tout sur son passage. Puis, on a entendu un gros bruit. Ma fille a hurlé. C'était la toiture du voisin qui est venue claquer sur ma maison, qui a tout embarqué, ma voiture, tout. Les dégâts sont phénoménaux, tout est cassé, explique-t-elle à notre micro. C'est très choquant. Ce sont les voisins qui nous ont prévenus. Ils ont entendu un grand bruit. Ils ont vu passer une sorte de tornade. Et le résultat, là, c'est qu'on n'a plus de maison. Témoigné hier soir le propriétaire, très ému de la maison dont la toiture a été arrachée. C'est un rire d'enfant comme on adore en entendre. C'est ce que nous raconte le journal 20 minutes. Ce rire, c'est celui de Salva, une petite Syrienne de tout juste 4 ans, dont le quotidien est, depuis qu'elle est née, rythmé par la guerre. Actuellement, la petite fille vit à Sarmada, une zone qui est actuellement bombardée par l'armée de Bachar al-Assad. Les bombardements qui d'ailleurs se sont intensifiés ces derniers jours, poussant près d'un million de personnes à fuir, du jamais vu depuis 2011. Et au milieu de ce chaos, il y a Salva. Pour tenter d'apaiser sa fille, pour la protéger aussi, son père a inventé un jeu. Comme le raconte le journal 20 minutes. La règle est simple. À chaque fois qu'une bombe explose ou qu'un missile frappe une cible, il faut rigoler. Le papa a filmé la scène. Dès qu'il entend un bruit suspect, le papa interpelle sa fille. « Tu crois que c'est un missile ou une bombe ?» Ce à quoi Salva répond « Une bombe !» et au même moment de l'explosion, éclat de rire. « Oui, c'est drôle !» dit le père pour prolonger la parenthèse. Cette vidéo, qui a été postée il y a quelques jours par un ami journaliste du père de Salva, a déjà été vue plus de 2 millions de fois. Le rire comme une protection face à la guerre. Dans le quotidien Le Monde de cette semaine, il est question d'une tribune d'un collectif d'étudiants et de lycéens qui presse désespérément les enseignants mobilisés contre la réforme des retraites de s'engager avec la même force contre la crise climatique. Chers professeurs, ces derniers mois, à travers votre mobilisation contre la réforme des retraites, vous nous avez montré la détermination dont vous savez faire preuve et l'organisation que vous savez mettre en œuvre pour peser dans les choix politiques. Si cet engagement contre une réforme manifestement injuste nous paraît légitime, et nous le soutenons, il a aussi laissé perplexe bon nombre d'entre nous parce qu'il révèle, par contraste, l'absence presque indécente de mobilisation pour le phénomène infiniment plus grave qu'est pour notre génération, la crise climatique. Alors je lis également un article de Dominique Plion dans Politis, « La planification écologique, un impératif ». Extrait. Il faut tirer profit des expériences de planification. Ainsi, la Suède est l'un des pays les plus efficaces dans la lutte contre les émissions de CO2, notamment grâce à un système de planification qui lui a permis de programmer dès les années 90, d'une manière concertée, la hausse progressive du prix du carbone, actuellement 3 fois plus élevé qu'en France. Une des caractéristiques importantes du plan français est qu'il a été une instance de concertation entre les acteurs politiques, économiques et sociaux. On sait aujourd'hui qu'une telle concertation est nécessaire pour favoriser l'adhésion de la société aux politiques publiques. L'idéologie et la méthode de gouvernement macronienne sont hélas aux antipodes de toute idée de planification écologique et de concertation sociale. Enfin, pour terminer cette revue de presse, aux éditions La Découverte, Histoire interminable, le premier des 6 recueils qui composent cette série d'écrits d'Étienne Balibar. Ce premier volume est paru en février et réunit des essais et des textes d'intervention à caractère historique, philosophique et politique, pour certains inédits, rédigés entre 1995 et 2019. Ils ont en commun de chercher à éclairer le passage d'un siècle à l'autre et d'affronter la question de la fin de l'histoire en référence d'une part à l'achèvement de la mondialisation capitaliste et de l'autre à l'altération de notre environnement biologique et planétaire qui a atteint le point de non-retour à la fin du XXe siècle, mais demeure en partie indéterminée par ses conséquences sociales et civilisationnelles. Merci.
Pause musicale ?
Oui, on va faire une petite pause musicale avec un rappeur qui s'appelle Petit Sam, un titre Cerveau Labyrinthe, extrait d'un album qui s'appelle Un monde en down tempo. C'est paru sur le label de musique libre Waruba et vous pourrez retrouver ça, si cela vous plaît, sur Bandcamp.
Je ne suis pas l'homme que j'aurais voulu être. Envers l'honneur, une vieille dette, une vieille dame. m'a dit un jour de ne pas s'habituer à ses faiblesses. Amoureux à mes états d'âme sœur, nerveux comme une bête sans cœur. Si ma vie a un sens, c'est celui d'une horloge qui n'indique plus l'heure. Des êtres faits pour l'indulgence, l'empathie se perd dans la mouvance. Pourtant une qualité ouf, on l'a oublié, on a désarmé le faible pour la jouvence. On se pavane dans les zones commerciales, endormi dans les succursales. De la mitraille on est esclave, oubliant que le vice est sentimental. Et la foule se presse, une entité inerte, une large peau épaisse, forme entourée de graisse. L'encéphale se balade et régresse, les mêmes qui galèrent et les mêmes qui oppressent. Tu vis dans mes pensées, un soir je prendrai les armes juste pour le plaisir de vous agenouiller. Abattu dans nos noirceurs, la vie nous a appris un peu chaque jour à accumuler les erreurs. On avance avec nos peurs, avec nos doutes, face souvent forcé de quitter la route. J'avais pas été de ce que ça nous coûte, se remettre en cause la fierté autour. J'ai fait de ma vie une messe noire, un dernier texte sans histoire, sans thème, sans vous. J'aurais sûrement été le dernier à croire en l'espoir. Un dernier son à la mémoire d'un mauvais départ, je l'ai vu dans le miroir. Tard, il va pleuvoir ce soir, cette année dans les crânes d'un million d'âmes noyées dans les flammes.
Créature vulnérable, courant des kilomètres dans le sable. Homme faible, être périssable, perdu dans les limbes, noyé dans ses larmes. Errant sans une seule arme dans une guerre sainte. Créature vulnérable, courant des kilomètres dans le sable. Homme faible, être périssable, plaisir de l'étreinte, mort inéluctable. Créature vulnérable et cerveau labyrinthe. Créature vulnérable, courant des kilomètres dans le sable. Homme faible, être périssable, perdu dans les limbes, noyé dans ses larmes, errant sans une seule arme dans une guerre sainte. Créature vulnérable, courant des kilomètres dans le sable. Homme faible, être périssable, plaisir de l'étreinte, mort inéluctable. Créature vulnérable et cerveau labyrinthe.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro-Rebelle Hebdo, magazine d'actualité sociale et culturelle dans le bassin minier. Pour le reste de cette émission, nous allons maintenant discuter avec Penda Diouf. Penda, merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Alors je vais me permettre une petite biographie pour que les auditrices auditeurs sachent un peu qui tu es, et puis on aura l'occasion de revenir dessus. Et donc tu es autrice de théâtre, Poussière, La Grande Ours, Le Symbole, Piste, sont quelques-unes de ces pièces, de tes pièces, remarquées et mises en lecture. Ces textes partent le plus souvent de situations d'injustice, tout en faisant place à une nature vivante et sensuelle, à l'oralité, ainsi qu'à la résilience et au féminin. Ta dernière pièce, Piste, dans laquelle tu joues, a été créée en 2019 par Aristide Tarnaga dans le cadre du festival Les Récrés Atrales de Ouagadougou. Penda Diouf, tu es aussi cofondatrice avec Anthony Thibault du label Jeune Texte en Liberté et tu participes également au projet Lire et Dire le théâtre en famille. Voilà, j'espère.
C'est juste.
C'était juste, c'est déjà ça. Et donc tu es avec nous parce que tu es en résidence d'artiste, résidence d'écriture avec Culture Commune, qui est une scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais et qui, pour le coup, se trouve à deux pas des studios de Micro-Rebelles. Et donc c'était vraiment l'occasion de faire un petit pont entre là-bas et ici. Alors peut-être toujours pour continuer les présentations, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ta vie, ton parcours, comment t'en es venue à faire du théâtre?
Ouais. Moi je suis née à Dijon, j'y ai vécu une partie de mon enfance, ensuite j'ai déménagé à Moulins dans l'Allier et ensuite à Antibes dans le sud de la France, avant de retourner à Dijon et de m'installer pour mes études de lettres modernes et d'art du spectacle à Paris. Après mes études, j'ai travaillé 3 ans dans un théâtre et ensuite dans un centre dramatique national à Aubervilliers. Et ensuite, j'ai postulé en bibliothèque. Donc j'ai travaillé 10 ans en bibliothèque, j'ai passé le concours, je l'ai eu, et j'ai été directrice d'une bibliothèque dans un quartier qui s'appelle le Franc-Moisin à Saint-Denis. Et ensuite j'ai été directrice des 4 bibliothèques de quartier à Saint-Denis pendant un an. Et j'ai posé une disponibilité, là, il y a tout juste un an, là, c'était le 1er avril, pour me consacrer davantage à l'écriture et à mes projets artistiques. Voilà.
Ah oui, donc jusqu'à l'année dernière, tu menais une vie sur deux fronts entre le théâtre et les bibliothèques,
ouais,
le travail des bibliothécaires.
Exactement.
D'accord. Et donc, bon, on a pu voir que tu étais à la fois comédienne, autrice. Je ne sais pas si tu fais aussi la mise en scène. Donc, est-ce que ce sont des pièces qui sont, menées de bout en bout par toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou pas forcément ?
Non, pas forcément. Moi, je me définis plutôt comme autrice. Après, effectivement, j'ai eu l'opportunité de jouer un de mes textes qui s'appelle « Piste » parce que c'est aussi un monologue et en partie autobiographique. Et le metteur en scène, Aristide Tarnagda, trouvait ça pertinent que ça soit moi qui le porte au plateau. Donc, j'ai joué dans ce cadre spécifique, mais c'est pas quelque chose que je recherche autrement. Et je trouve que la place d'autrice, c'est peut-être celle qui me convient le mieux. Parce qu'il y a deux temps, quand on est auteur, il y a le temps à la fois de l'écriture, qui est un temps un peu solitaire, et c'est quelque chose qui me convient bien, qui correspond bien à ma personnalité, et il y a un autre temps, celui de la découverte du texte avec d'autres, avec une équipe artistique et avec un public, et c'est un autre temps où on est plus en lien avec le monde et avec la société, et du coup c'est aussi un autre pan de ma personnalité qui... Ça répond à ce pan-là de ma personnalité. Je trouve que cette place d'autrice me convient bien.
Et du coup, comment tu as réussi à franchir le pas ? Parce qu'on imagine que c'est effectivement, comme tu dis, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier, c'est pas le même investissement, engagement, compétences nécessaires. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as pris des cours ? Est-ce que ça a été assez naturel ?
Non, ça, c'est pas naturel du tout d'être sur un plateau, je trouve. Mais au départ, Piste, c'était un projet de la SACD, donc la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui demandait à 6 autrices d'écrire sur une thématique. L'idée, c'était de valoriser les textes d'autrices. Et donc, la thématique, l'année où j'ai participé, c'était le courage. Et je me suis posé la question, quand est-ce que moi, je me suis sentie... Et le principe aussi du projet, c'était que les autrices portent leur texte sur le plateau après. Donc je me suis demandé quand est-ce que je me suis sentie courageuse à un moment dans ma vie. Et j'étais partie sur l'idée de la première personne, du jeu et du monologue. Et du coup, j'ai pensé à un voyage que j'ai fait en Namibie il y a une dizaine d'années. Donc c'est un pays qui est au nord de l'Afrique du Sud, qui a été colonisé par l'Allemagne entre 1875 et 1915, et ensuite qui a été colonisé par l'Afrique du Sud jusqu'en 1990. Et c'est à la sortie de prison de Nelson Mandela en 90, en fait, que le pays a connu son indépendance. Et du coup, j'ai écrit ce texte-là, sur la Namibie, sur l'histoire, parce qu'il y a eu aussi un génocide en Namibie commis par les Allemands pendant au début du siècle. Et en fait, j'ai fait plusieurs lectures de ce texte. Et à la suite d'une des lectures, le metteur en scène est venu me voir en me disant « ça serait bien que tu montes au plateau ». Donc non, pas de... Le dispositif, en fait, était assez simple. L'idée, c'était vraiment qu'on entende le texte et que ça soit une autrice qui vienne raconter une histoire. Donc il n'y avait pas d'artifice de comédienne, parce que je ne suis pas comédienne et que ça aurait été très, justement, artificiel pour le coup de faire semblant en peu de temps. Et voilà.
Et alors, j'ai évoqué le label Jeune Texte en Liberté que tu as cofondé avec Anthony Thibault. Est-ce que tu peux nous parler de ce label ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un label, un festival qui existe depuis 5 ans et qui a été créé suite à une rencontre au Théâtre de la Colline à Paris. Donc, c'est un théâtre national. Et la rencontre portait sur la représentation de la diversité sur les plateaux de théâtre. Et c'est vrai que la rencontre était assez houleuse. Elle était modérée par Laure Adler, qui est partie en plein milieu de la rencontre en disant qu'elle avait d'autres choses à faire. Et donc, elle est partie en plein milieu, ce qui est assez étonnant. Et du coup, il y avait une sorte de colère diffuse dans la salle qui, je pense, nous a contaminés, Anthony et moi, parce qu'on était assis côte à côte, mais on ne se connaissait pas. Et par deux fois, il m'a empêchée de parler. Et du coup, la colère est montée. Et je l'ai qualifiée de blanc dominant colonialiste, ce qui ne lui a pas plu. de fait. Et du coup, pendant la nuit, il m'a écrit un mail très, très sensé, très sensible, où il proposait qu'on se retrouve à un autre moment et qu'on discute et voir s'il y avait des passerelles possibles, en fait, entre son travail et le mien. Et très peu de temps après, on s'est vus et on s'est dit qu'on avait envie de défendre les mêmes choses, à savoir les textes de théâtre contemporain, les auteurs et les autrices, de travailler la question de la diversité pour que ça n'en soit plus une et qu'on puisse voir différents profils sur les scènes de théâtre, donc des hommes, des femmes, des personnes âgées, différentes origines ethniques également, sans que ça pose question. Et la dernière, c'était de créer la rencontre en organisant des lectures de théâtre, du coup, dans les structures théâtrales et aussi hors les murs, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Donc on intervient dans des associations de femmes, des foyers de jeunes travailleurs, des hôpitaux de jour, des bibliothèques, des librairies, des restaurants. Voilà, c'est très ouvert.
Alors ça m'interpelle ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu l'occasion d'enregistrer une conférence avec des autrices aussi comédiennes de Décolonisons les arts.
Ok, bon, bah j'en connais certaines. Je fais aussi partie de l'association.
Qui est une association qui est aussi basée à Paris. Ouais. Et ils ont mené des études sociologiques et visiblement la diversification dans le théâtre, c'est quand même pas gagné. Ça demande... disons que la lutte est plutôt devant que derrière. C'est un combat aussi que tu essayes de mener, et comment est-ce que c'est plutôt dans le texte, dans les formes théâtrales, ou est-ce que c'est aussi à côté, parce qu'il y a cette question institutionnelle, en fait, l'institution théâtrale qui en elle-même est pas très diversifiée.
C'est un combat que je rejoins, Décoloniser les arts. Je suis adhérente de l'association, même si je suis pas très active, mais j'adhère et puis je partage en tout cas leurs propos et leurs combats. Effectivement, c'est un travail de longue haleine qui, à la fois, s'attache à montrer différents visages sur les plateaux de théâtre, et donc qu'il y ait des Noirs, des Arabes et des Asiatiques sur les plateaux, sans que ça pose question et sans qu'on se dise « Ah mais tiens, pourquoi on a mis un Arabe pour jouer Hamlet ?» voilà. Ensuite, c'est la question des narrations. Il faut faire attention, je pense, à ne pas tomber dans une forme de saupoudrage où on va avoir des comédiens et comédiennes non blancs, non blanches sur le plateau, mais avec des rôles ultra stéréotypés. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de travailler sur les narrations et faire en sorte que les rôles qui soient proposés soient de vrais rôles intéressants, qu'on ait envie de défendre et qui puissent être... où le spectateur pourrait se retrouver, se projeter...
Peut perturber un peu les habitudes des spectatrices et spectateurs.
Ouais, aussi. Mais en fait, je sais pas si les. Souvent, on dit que les spectateurs ne sont pas prêts, mais je suis pas sûre de ça. J'ai l'impression que c'est plutôt le discours qu'on nous balance, en fait, pour justifier, mais en fait les gens sont prêts, quoi. Faut voir le succès de films comme Black Panther, par exemple, où les gens sont prêts. C'est pas au niveau du public que ça se joue, c'est au niveau effectivement institutionnel et des personnes qui sont en situation d'autorité et de pouvoir. Et pour répondre à ta question, effectivement, je pense que ça se passe de façon parallèle et en même temps, c'est-à-dire à la fois essayer de prendre des places aussi dans ces institutions-là, être dans les comités de lecture, être dans des postes de direction dans les théâtres également, être aussi à cette place d'auteur et d'autrice, de mise en scène, et à côté de ça, essayer de développer des façons de faire, des protocoles, des méthodes parallèles, en fait, en dehors de l'institution, pour essayer de le remettre en cause et de le questionner. Je pense que les deux mouvements, en fait, peuvent se faire et de façon parallèle, conjointe et solidaire.
Je vais maintenant prendre une petite citation. Hein, tu pourras peut-être la recontextualiser. Tu as dit « J'écris essentiellement des personnages féminins, racisés. » Je pense n'écrire bien que les choses que je connais et maîtrise. Pour moi, l'art et l'écriture ne peuvent être déconnectés d'un environnement social, culturel, politique. De ce fait, les pièces sont souvent traversées par les questions de féminisme, de patriarcat, d'identité, d'oppression. Alors c'est vrai que ça rejoint un peu ce dont on est en train de parler, et puis c'est quelque chose qui traverse depuis le départ ta volonté d'écrire.
Oui, c'est ça. Je pense que si j'écris, c'est parce que je suis quelqu'un, même si j'ai l'air très calme comme ça, je suis quelqu'un qui suis assez en colère, et que cette colère-là, pour ne pas la garder en moi, parce que je pense que la colère, ça peut être aussi très autodestructeur. L'idée, c'est de pouvoir la projeter, de la mettre à distance, et de la mettre à distance par l'écrit. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai du mal à écrire sur des choses qui ne me parlent pas ou qui me paraissent lointaines. Je suis toujours obligée de trouver un fil qui va faire écho avec moi, avec mes ressentis, avec la colère que je peux éprouver pour écrire et pour que ça soit au plus juste possible, en fait. Voilà.
Et alors, comment ça se traduit dans les pièces de théâtre au niveau des thématiques, des sujets de... Est-ce que tu peux peut-être nous présenter peut-être plus concrètement ce que tu as pu écrire?
Alors j'ai présenté un petit peu Piste, du coup, qui traverse trois thématiques à la fois. Moi, mon enfance à moi de jeune fille non blanche habitant à Dijon et plus généralement en province, et les questions de racisme que j'ai pu rencontrer aussi dans ma vie. Il y a ce voyage en Namibie et ce road trip que j'ai fait et les rencontres que j'ai pu faire sur place. Il y a la figure de Frankie Frédérix, qui était un athlète namibien, qui arrivait souvent deuxième en 100 mètres et en 200 mètres, et dont j'étais amoureuse quand j'avais 14 ans. et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai découvert la Namibie, parce que je trouvais que c'était un athlète très humble, en fait, très pudique. Il avait quelque chose de très discret. Et il était sur des disciplines qui étaient plutôt dominées par les Afro-Américains, qui, eux, sont toujours beaucoup dans le show-off, je monte les muscles, je me montre, je joue avec le public. Et lui, il n'avait pas du tout cette attitude-là. Et de ce fait, jeune fille de 14 ans, qui me sentait en minorité, qui ne connaissait pas beaucoup d'autres Noirs, etc., c'est vrai que je me suis plus projetée vers cette figure-là, qui était toute humble et toute discrète, de Frankie Frédérix, et qui pour autant concurrençait les meilleurs athlètes mondiaux, quoi. Il faisait partie des meilleurs athlètes mondiaux. Donc voilà, et puis en même temps, donc, l'histoire de ce génocide qui a eu lieu, qui n'a pas encore été totalement... comment dire ça En fait, l'Allemagne n'a pas totalement reconnu le terme génocide, même si 50% de la population Nama et 75% de la population Herero ont été tués à ce moment-là. Pareil, les premiers camps de concentration ont été construits en Namibie entre 1875 et 1915. Et il y a aussi une sorte de généalogie un peu morbide entre la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'est passé en Namibie, à savoir que Eugène Fischer était un éminent généticien dont Hitler se serait inspiré pour écrire Mein Kampf, et donc qui a commencé à faire des expériences scientifiques en Namibie. Et Mengele, en fait, qui était donc le médecin de la mort à Auschwitz, qui s'inspirait, en fait, de Eugène Fischer et de ses thèses, en fait, voilà. Il y a eu aussi le Göring, qui était commandant en chef de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père était gouverneur du sud-ouest africain, c'est-à-dire de la Namibie, pendant cette période. Donc voilà, il y a toute cette généalogie aussi que j'essaye de tisser dans cette pièce. Voilà, donc là, elle est très historique, hein, cette pièce, mais il y en a d'autres. Par exemple, La Grande Ourse, qui a été éditée il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, 1 mois. Cette pièce, elle parle d'une jeune femme qui est en but, en fait, avec la police. Elle a fait tomber un papier de bonbons et elle se retrouve en garde à vue pendant très très longtemps. Et complètement humiliée et détruite par cette expérience, en fait, elle est obligée de chercher, en fait, les ressources en elle pour essayer de survivre. Et du coup, ça s'inspire beaucoup d'un livre de Clarissa Pinkola Estes qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups », qui était un essai féministe qui est sorti dans les années 70, à peu près. Voilà. Donc, c'est en gros les thèmes que j'aborde, beaucoup la question des violences policières, du rapport à l'autre et du féminisme et du patriarcat. Et des thèmes historiques aussi qui m'intéressent et qui m'interpellent, comme celui de la Namibie. En fait, j'aime parler des personnages qui sont un peu marginaux qui sont en périphérie et qui n'ont pas eu beaucoup la voix, une voix au chapitre.
Alors justement, ça fait la transition avec la question que je voulais poser, c'est que tu as également dit que tu écrivais que des personnages féminins. Et bon, est-ce que c'est cette question du féminisme ou c'est aussi cette question de la, peut-être la difficulté de se transposer dans un autre genre?
Non, là, c'est plutôt un parti pris. C'est plutôt vraiment dans l'idée de montrer qu'il y a des personnages féminins forts qui existent. Donc, c'est plutôt un parti pris militant. Souvent, lorsqu'on regarde le théâtre contemporain, ça sera beaucoup des personnages masculins interprétés du coup par des hommes, mis en scène par des hommes. Et l'idée, c'est de renverser un peu la tendance et d'essayer de rééquilibrer les choses. C'est pour ça que j'écris essentiellement des personnages féminins. Et puis c'est aussi des personnages qui me touchent, parce que même si les femmes ne sont pas minoritaires dans le monde, en termes de droits en termes de droits, elles restent minoritaires, entre guillemets, quoi.
Alors j'en viens maintenant au fait de ta présence dans le bassin minier, puisque tu l'as dit, tu n'es pas originaire et tu résides pas dans le bassin minier. Donc tu es en résidence d'artiste, résidence d'écriture avec Culture Commune, hein, je le rappelle, qui est la scène nationale du bassin minier.
Il y a aussi, pardon, le service culturel de l'Université d'Arras.
D'accord, voilà. Qui participe à la possibilité de cette résidence. Alors est-ce que tu peux nous en expliquer le principe?
Alors,
en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais
Les résidences d'écriture, il y en a plein et elles sont toutes très différentes en fonction et des auteurs, autrices ou artistes accueillis, en fonction du lieu d'accueil. J'ai deux fois deux semaines en fait d'immersion en fait dans le bassin minier. Donc je loge à la maison des artistes et de la vie citoyenne à côté de Culture Commune. L'idée c'est que je puisse avoir un temps d'écriture autour d'une thématique et de voir comment cette thématique peut faire écho, s'inscrire aussi dans ce territoire-là qu'est le bassin minier. Et du coup, de ce fait-là, la résidence a été prévue pour que je puisse rencontrer des personnes qui, à la fois, pourraient me donner une meilleure vision, visibilité du territoire et aussi, peut-être, nourrir mon écriture. Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs ateliers, rencontré différentes personnes dans ce cadre-là. Et je les en remercie, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, elles ont été très généreuses et ça s'est toujours très, très bien passé.
Et donc, est-ce que ça suppose que ta prochaine pièce, ta prochaine œuvre, parle du bassin minier, s'en imprègne, s'en inspire, ou alors s'y déroulera
Oui, le lieu de l'action, ça se déroulera dans le bassin minier. Alors après, c'est en cours, j'ai même pas commencé à écrire encore. Là, c'est juste en cours de maturation. Donc, je lis pas mal de bouquins pour m'informer, pour essayer de trouver le juste fil pour ma pièce. Et puis je rencontre des personnes, mais effectivement, ça va se dérouler ici, dans le bassin minier. Voilà. Ça sera pas, la mine ne sera pas l'objet principal de la pièce, mais en tout cas, elle sera présente.
Et il y a également ce projet qui s'appelle Lire, dire le théâtre en famille. Mmh. Alors je ne sais pas si c'est indépendant de cette résidence. Oui. Comment ça se noue, mais est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, en fait, je suis présidente de l'association là, depuis un mois, donc normalement, je devrais pouvoir vous en parler. Donc, c'est une association qui existe depuis 5 ans, qui a été créée par une personne qui travaille à la SACD, que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Sandrine Grataloup, et qui a eu envie de faire en sorte que le théâtre soit partagé de façon très large, et notamment dans des familles. Et aidé par Cyril Planson, qui est directeur d'un festival qui s'appelle Petits et Grands à Nantes, Cyril a proposé, lui, que des lectures se déroulent dans les familles. Donc le projet, c'est petit à petit dessiné comme ça, avec l'aide d'un auteur jeune public qui s'appelle Luc Tartar. Et l'idée, en fait, c'est que se déroule en 3 sessions la découverte et la mise en lecture d'un texte. Donc première session où un auteur ou une autrice, un comédien ou une comédienne vient voir une famille, propose des textes en lien avec la composition familiale, sur différentes thématiques, pour montrer en fait ce qu'est le théâtre contemporain aujourd'hui. La famille choisit un texte. Deuxième séance, on s'entraîne à lire le texte à voix haute. Et troisième séance, la famille invite des voisins, la famille, qui y souhaite. Et on organise une lecture, entre guillemets. Donc l'idée, c'est vraiment de partager du théâtre, d'avoir un temps en famille, parce que c'est pas toujours évident aussi de se retrouver entre les activités des uns et des autres, les tablettes et compagnie, de trouver un temps ensemble pour lire à voix haute. Voilà.
Et alors justement, à l'heure, il y aura des rediffusions, mais à l'heure où on enregistre cette émission, au moment où elle va se terminer, tu vas aller dans une famille. Et donc, qu'est-ce que tu vas y lire, ou est-ce que c'est toi? Est-ce que le but, c'est aussi qu'ils s'approprient les textes et qu'ils les lisent?
Alors pour le coup, c'est vraiment les familles qui lisent. L'auteur ou l'autrice accompagne, donc il peut éventuellement lire les didascalies. En général, il présente le projet au début, il peut lire les didascalies. Éventuellement, il peut aussi jouer un personnage. Je sais que demain, par exemple, il manque un personnage, donc je vais jouer un des personnages. Et ce soir, le texte qui va être lu, c'est un texte de Karine Serre qui s'appelle « Louise les ours ». Et ça se passe au Canada. Et c'est une jeune fille qui a 11 ans, qui rentre de l'école et qui se rend compte qu'elle a un ours qui la suit derrière elle. Et elle se rend compte au fur et à mesure, elle s'aperçoit qu'il y a un ours derrière chaque personne en fait, qu'elle rencontre. Donc un ours derrière son papa, derrière sa grande sœur et derrière les gens de l'école. Donc c'est un texte qui est intéressant, qui parle à la fois d'écologie, qui parle aussi du passage de l'enfance à l'âge adulte, de l'imaginaire, de l'ami imaginaire aussi, hein, que certains d'entre nous ont eu petit. Voilà, c'est un chouette texte.
Et on imagine que cette démarche, lire le théâtre en famille, ça participe aussi de l'idée d'essayer de démocratiser le théâtre, de faire venir, on a parlé tout à l'heure de la diversité sur les scènes, dans les institutions, mais il y a aussi la question qui se pose par rapport au public, c'est pas quelque chose d'évident, et c'est vrai que ça, le théâtre passe encore pour une activité culturelle assez élitiste.
Oui, c'est vrai que par rapport à ça, je m'appuie beaucoup sur mon expérience de bibliothécaire dans un quartier populaire. C'est comment faire venir les personnes et qu'elles se sentent en fait accueillies et chez elles dans l'institution. Donc ça passe par plein de choses différentes, par des politiques tarifaires, par du lien, par des stages, par des actions, mais qui ne seraient pas descendantes, mais plutôt collaboratives. Ça passe par tout ça, mais effectivement, moi, la question de la légitimité des uns et des autres à se situer dans tel ou tel espace, ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, la question de l'hospitalité, la façon dont on accueille l'autre, et aussi montrer à chacun et à chacune que le théâtre, l'écriture, la lecture à voix haute, c'est des choses qui sont à portée de chacun et de chacune.
Alors il nous reste quelques minutes, peut-être qu'on pourrait parler, hormis l'écriture de cette pièce, par rapport à cette résidence d'artiste, parce qu'il y a... T'as d'autres projets en cours, d'autres idées en tête qui sont en train de mijoter?
Je suis aussi en résidence, mais pour un an, à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc c'est une structure qui accueille des femmes qui ont subi des violences sexuelles ou physiques. Et c'était notamment une structure qui était spécialiste, quoi qui est toujours spécialiste de la réparation en cas d'excision. Donc c'est Rada Atem qui est présidente directrice de cette structure et donc je suis en résidence là-bas pour un an avec à la fois des ateliers d'écriture à mener avec ces femmes et aussi un texte à rendre autour de ce que j'aurais pu observer, voir, entendre à la Maison des Femmes. Donc j'ai ce projet-là en cours, le texte est terminé, donc on va commencer à organiser des lectures. Donc j'ai ça, et puis je suis aussi, depuis janvier, artiste associée au Centre Dramatique National de Valence. Donc il y a aussi
Il faut un don d'ubiquité pour être...
Je ne sais pas comment je vais me débrouiller cette année, mais c'est beaucoup de voyages. Ça, je ne me rendais pas compte. Hein. Je suis passée d'une vie très sédentaire et organisée en bibliothèque à une vie beaucoup plus... beaucoup plus nomade, voilà. Mais c'est chouette parce que ça me permet de rencontrer plein de gens différents et de faire des rencontres que je ne ferais pas si j'étais restée en médiathèque.
Et ça pourrait arriver que tu retournes à ton ancienne vie de bibliothécaire ou t'as plutôt pris goût à ce nomadisme théâtral ?
Je peux pas prédire, mais en tout cas, j'ai quitté le métier de bibliothécaire pas parce qu'il ne me plaisait pas en fait, c'est parce qu'il y avait d'autres opportunités, d'autres choses à vivre. Donc je pense que je n'aurai aucun souci à y retourner. C'est vraiment un métier que j'aime beaucoup, qui m'a construit humainement, professionnellement et dans lequel j'ai beaucoup appris en fait. Donc d'ailleurs, dès que je peux faire des ateliers en médiathèque, j'y vais. C'est vraiment un endroit où je me sens bien. Et peut-être que les deux endroits où je me sens le mieux au monde, c'est les bibliothèques et les salles de spectacle.
En parlant de salles de spectacle, bon, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il va y avoir des représentations de tes pièces prochainement dans notre coin ?
Alors, dans le coin, je ne suis pas sûre. Mes pistes vont tourner actuellement, donc je vais faire des lectures de pistes à l'Institut français de Stuttgart, là, au mois de mars. Et ensuite, ça va tourner, mais la version spectacle à Düsseldorf au mois de mai, et ensuite à Paris, donc à la MC 93, à Bobigny, et au Grand T, à Nantes, tout ça au mois de décembre. Voilà.
Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Penda Diouf.
Merci beaucoup pour l'invitation, vraiment.
Avec plaisir. Donc je rappelle que tu es en résidence d'artiste à Culture Commune, scène nationale du bassin minier. Cette émission se termine donc, Micro Rebelle Hebdo, vous pourrez la retrouver sur notre site internet microrebelle.fr et merci à nos amis de Radio PFM qui nous diffusent et nous rediffusent. On va terminer en musique, toujours sur le label Waruba, ou un label de musique libre, c'est Syndrome, l'artiste Desiderata pour le titre.